Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver à l'écoute de Métropolez-vous et de saluer ceux qui découvrent cette émission. L'égalité des chances, voilà une notion qui en apparence parle à tout le monde et qui pourrait rassembler tout le monde. En théorie, cependant, ce concept est difficile à définir, chacun ayant sa propre vision de ce qu'est ou doit être l'égalité. De même, le mot « chance », surtout lorsqu'il est au pluriel, est également ambigu et sujet à interprétation. Cela dit, il est un domaine où l'on voit assez bien ce qu'égalité des chances peut vouloir dire, c'est celui de la scolarité et des études. Comment faire en sorte que chaque élève, quelle que soit son origine, sa religion, son milieu social ou la région où il vit, puisse avoir les mêmes chances que les autres de recevoir un enseignement de qualité et de suivre des études supérieures s'il le souhaite. Il existe des programmes pour favoriser l'égalité des chances dans les établissements scolaires et nous allons regarder ce qu'il en est sur notre territoire à l'occasion de ce numéro consacré à l'égalité des chances dans la métropole et la région toulousaine. Comme je vous le disais, il existe des programmes en faveur de l'égalité des chances et il y en a un qui est piloté par Sciences Po Toulouse, dont nous recevons aujourd'hui le directeur de l'innovation sociale et des égalités, responsable du programme DISPO. Olivier Philippe est l'invité de ce numéro et je le remercie d'avoir bien voulu y participer. Bienvenue à vous aussi, vous êtes également référent égalité à Sciences Po Toulouse. Alors, puisque je pense que l'intitulé de votre poste, directeur de l'innovation sociale et des égalités, n'est pas forcément clair et explicite pour tous nos auditeurs, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer de quoi il retourne ?
Oui, c'est vrai que c'est un intitulé un peu bizarre, qui peut paraître bizarre, mais l'idée en tout cas de ce poste autour de l'innovation sociale, enfin l'innovation sociale, c'est tout ce qui permet, pour dire les choses simplement, en tout cas de transformer la société, de transformer les rapports sociaux dans une perspective assez particulière qui est celle de l'inclusion. De l'inclusion de toutes les différences. Et donc, le pluriel aussi aux égalités, c'est bien ce que vous évoquiez dans votre lancement aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont toutes les dimensions qui participent à caractériser les individus et qui peuvent créer des inégalités, que ça soit effectivement l'origine, la religion, le sexe, ou encore, effectivement, comme vous le disiez, le territoire ou les conditions socio-économiques et culturelles. Et donc l'idée, c'est véritablement d'essayer d'agir sur toutes ces dimensions-là.
Alors derrière tout ça, il y a ce programme DISPO, dont vous êtes responsable à Sciences Po Toulouse. De quoi s'agit-il exactement ? Qu'est-ce que c'est le programme DISPO ?
Alors le programme DISPO, déjà vous allez voir dans l'acronyme, puisque c'est un acronyme en fait, ça signifie dynamique de l'innovation sociale et politique. Vous voyez, on y est encore dans l'innovation sociale. Et l'idée, c'est simplement, enfin, simplement, c'est pas si simple que ça, mais en tout cas c'est un programme d'accompagnement des collégiens et des lycéens. On les incite, hein, la signature du programme, c'est révéler, accompagner les ambitions. Alors ça peut paraître un peu comme ça, vite dit, mais en fait c'est véritablement l'état d'esprit de ce programme. Hein. Donc il s'agit de lutter contre les freins de toute nature qui empêchent des élèves en tout cas de se diriger vers l'enseignement supérieur et surtout les études longues. On est vraiment dans cet objectif-là.
Voilà, et c'est en cela qu'il est lié évidemment à une démarche en faveur de l'égalité des chances. Merci de nous avoir déjà donné quelques explications sur le programme DISPO. Nous allons y revenir un peu plus tard dans cette émission puisque nous avons maintenant rendez-vous avec Corinne Saint-Félix pour son habituel flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Vous l'avez sans doute lu et entendu dans la presse et les médias, le Premier ministre Édouard Philippe était à Toulouse la semaine dernière et sa visite a donné lieu à la signature du contrat État-Toulouse Métropole.
Effectivement, Eric, jeudi dernier, le Premier ministre et le président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc, ont signé à Mondouzil le contrat État-Toulouse Métropole par lequel Toulouse Métropole s'engage à maîtriser ses dépenses de fonctionnement, hausse plafonnée à 1,35% par an, en contrepartie du maintien des dotations que verse l'État pour financer le fonctionnement des services publics. Chaque année, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale, dont Toulouse Métropole, perçoivent des dotations de l'État. Cette enveloppe financière est versée à chacun pour financer le fonctionnement des services public.
Mais dites-moi Corinne, comment tout cela fonctionne-t-il ?
Alors, dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, les collectivités et les EPCI, dont les dépenses de fonctionnement dépassent les 60 millions d'euros par an, peuvent signer un contrat avec l'État par lequel ils s'engagent à contenir leurs dépenses du quotidien, comme les charges de personnel, les achats de fournitures ou encore les charges de gestion courante. Chaque collectivité locale s'engage à modérer l'augmentation de ses dépenses sans dépasser 1,2% par an. Pour Toulouse Métropole, ce chiffre s'élève à 1,35%. La métropole affiche le dynamisme démographique le plus élevé de France. Donc en contrepartie du respect de cette limite, l'État s'engage à maintenir le montant des dotations qu'il verse.
Une autre signature importante qui avait eu lieu en 2016, celle de la charte de la lecture publique par les maires des 37 communes de la métropole.
À travers cette charte, Toulouse Métropole engage des actions afin d'accompagner les nouveaux usages et renforce son soutien aux acteurs du livre et de la lecture. Parmi les projets phares de cette charte, la métropole s'engage à favoriser l'échange de compétences et le partage de savoir entre habitants, particuliers, enfants, designers, entrepreneurs, bricoleurs. Une action qui passe par le Quai des Savoirs pour favoriser le développement de Fab Lab dans ou avec les bibliothèques du territoire.
Et puis je suppose qu'il s'agit aussi de faciliter les pratiques d'échange entre habitants.
Effectivement, pour cela, Toulouse Métropole déploie un dispositif de troc de biens culturels, livres, presse, jeux, nommé boîte à troc. On en a souvent parlé dans Métropole et vous, conçu par un collectif de jeunes designers en lien avec les bibliothécaires du territoire. Toulouse Métropole entend aussi soutenir le maintien de la présence des libraires dans la cité. Outre l'exonération de la contribution économique territoriale, Toulouse Métropole identifie des actions d'accompagnement des librairies indépendantes au titre du développement économique. A noter que Jean-Luc Moudin, président de Toulouse Métropole, a adressé la semaine dernière un courrier à la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, pour appuyer la démarche de la librairie Gibert Joseph, qui alerte les pouvoirs publics sur les difficultés rencontrées par les librairies indépendantes.
Pour finir, un événement à noter sur vos agendas du week-end, les Journées nationales de l'archéologie se dérouleront les 15, 16 et 17 juin 2018.
Et à cette occasion, vous pourrez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique grâce à des expositions, des ateliers ou encore des conférences. Un exemple, vous pourrez voir d'un autre œil les remparts de Toulouse. Aujourd'hui presque entièrement disparus, ils ont laissé une empreinte encore bien visible dans la ville. L'exposition mise en place propose de raconter l'histoire des remparts et des fortifications de Toulouse depuis leur construction dans l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Saviez-vous par exemple qu'il a fallu produire 10 millions de briques pour construire le rempart antique et importer 3000 tonnes de pierres calcaires du Piémont pyrénéen à 70 km de distance tout de même. Plus de renseignements sur le site internet journée-archéologie.fr.
Olivier Philippe, peut-être une réaction ou un commentaire à certaines des informations de ce flash. Les boîtes à troc, par exemple, ce dispositif de troc de biens culturels, je suppose que c'est le genre d'initiative que vous regardez plutôt d'un bon œil à Sciences Po.
Oui, complètement. En tout cas, toutes les actions qui peuvent effectivement aller dans le sens de favoriser la lecture et une culture du livre aussi. Quoi qu'on en dise, en tout cas, si on regarde ça par rapport aux élèves aussi, ça reste un élément important, à la fois de la formation, bien sûr, intellectuelle, mais aussi ça peut devenir une barrière extrêmement importante pour être ajusté aux normes scolaires et universitaires. Donc tout ce qui peut permettre des activités autour de la lecture et... du lien social, favoriser le lien social, évidemment. Je ne peux être que d'accord avec ce genre d'initiative.
Merci. Alors, nous allons tout de suite revenir au thème de cette émission. Je le rappelle pour ceux qui viendraient nous rejoindre à l'antenne, l'égalité des chances dans la métropole et la région toulousaine, le programme dispo.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous. Métropolez-vous, la suite avec l'invité de ce numéro, Olivier Philippe, directeur de l'innovation sociale et des égalités, responsable du programme DISPO à Sciences Po Toulouse. Je voudrais qu'on fasse d'abord un petit rappel historique concernant ce programme DISPO. Il a été créé et lancé en 2006. Pourquoi précisément cette année-là? Est-ce qu'il y avait un contexte à l'époque ou un constat qui explique que ça a commencé en 2006?
Alors, il y avait quand même un contexte qui était celui des émeutes de 2005, quand même.
Et de triste mémoire.
Voilà, enfin, je dirais qu'il y a quand même constitué une sorte d'électrochoc aussi pour la société française, mais aussi pour les pouvoirs publics. C'est-à-dire, en fait, peut-être de s'alerter sur ce qui se passait dans les quartiers qui, quand même, se sentaient plutôt abandonnés. Donc, l'idée, c'était bel et bien, En tout cas, la construction du programme, elle s'inscrit bien dans ce contexte-là, avec l'idée que un établissement comme Sciences Po, on est un institut de sciences sociales, donc on a aussi quand même un certain nombre d'armes pour essayer de penser ces questions-là. Il y a de la recherche sur ces questions-là dans l'établissement, donc qu'est-ce qu'on pouvait faire ou qu'est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre pour justement, alors pas régler tout, hein, mais apporter évidemment une contribution, enfin, à ce mal-être en tout cas.
Donc c'est vraiment une initiative de Sciences Po. Est-ce que c'est une initiative de Sciences Po Toulouse, parce qu'il y a d'autres antennes de Sciences Po, ou est-ce que c'est une initiative nationale à la base ?
Alors non, au départ c'est une initiative, on va dire toulousaine, ou en tout cas régionale, midi-pyrénéenne à l'époque. Mais ensuite, effectivement, c'est devenu un sujet commun à sept des IEP, des instituts d'études politiques, en tout cas en France. Et à partir de là, au cours du temps, et notamment à partir de 2008, on a construit petit à petit une politique de démocratisation commune, avec une philosophie commune, et avec des outils communs, etc. Et donc là, évidemment, la couverture est beaucoup plus nationale.
Donc il y a 7 sur les 10, on va peut-être parler de ceux qui n'en sont pas, je sais qu'il n'y a pas Paris, alors non. ça veut pas dire qu'ils ne font pas quelque chose dans ce domaine,
sûr,
évidemment.
Oui, bien sûr, oui, bien sûr, ils ont des actions, et bon, d'ailleurs, pour le coup, souvenons-nous que c'est en 2002, donc bien avant d'ailleurs les émeutes justement de 2005, que Sciences Po Paris a mis en place les conventions ZEP. Et puis par ailleurs, que ça soit à Bordeaux ou à Grenoble, en tout cas je sais qu'à Bordeaux, Grenoble je ne sais pas très sincèrement, mais en tout cas à Bordeaux ils ont des initiatives en ce sens.
Alors, à qui s'adresse ce programme ? Parce que élèves en situation de défaveur, quels sont les critères qui permettent de dire cet élève ou ces élèves sont en situation de défaveur ?
Alors, il y a, enfin, je dirais, une première idée qui se traduit aussi par un critère de choix, c'est bien sûr tout ce qui va relever des conditions socio-économiques. On sait très bien que les conditions socio-économiques ont un impact sur la scolarité, sur la poursuite d'études. Donc, c'est un programme qui s'adresse très majoritairement aux boursiers. Donc ça, c'est un premier élément, mais on va revenir à ce qu'on a évoqué tout au début, hein, c'est-à-dire que nous, on est très attachés aussi à intégrer dans le programme des élèves avec handicap, parce que ça aussi, ça constitue bien entendu...
Et oui, on n'y pense pas toujours, mais effectivement...
Et donc, même si c'est pas si évident que ça, mais on fait en sorte en tout cas d'attirer, d'inciter ces élèves-là à intégrer le programme. On est aussi très attentif, le déploiement du programme d'ailleurs sur le territoire en rend compte, hein, mais à la question bien sûr des inégalités territoriales. Alors l'Académie de Toulouse, comme ça au moins on sait qu'on parle de l'ancienne région, mais sur l'Académie de Toulouse, on a quand même une configuration assez spécifique, hein, avec une grande métropole, des territoires ruraux, de montagne, etc. Bon, enfin, c'est quelque chose qui est pris en considération. On est très sensible aussi à l'égalité femmes-hommes. On essaie de faire en sorte qu'il y ait une parité le plus possible, même si le programme est beaucoup plus féminin, mais ça on pourra peut-être y revenir sur les raisons. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'on tient compte aussi des situations particulières. Par exemple...
Le contexte familial, par exemple.
Le contexte familial, effectivement, et notamment les familles monoparentales
oui.
Par exemple, dont on sait que, bien entendu, ça produit, alors pas...
Pas nécessairement,
bien entendu, mais on sait que c'est un indicateur...
Critère, oui.
En tout cas, qui va créer ou qui peut créer des situations, justement, qui créent des inégalités et donc une situation de défaveur.
À partir de quel âge, de quelle classe, les élèves sont-ils concernés par le programme DISPO ? Est-ce que ça ne concerne que les élèves à partir du lycée ou est-ce que ça commence avant ?
Alors, ça commence avant, ça commence au collège, mais en fait, on a développé cette dimension du collège après, hein, au cours du temps, mais ça commence en classe de 3e. Et l'idée, évidemment, avec les collèges avec lesquels on travaille, c'est d'ouvrir la possibilité pour ces élèves-là qui intègrent le lycée, puisque déjà l'objectif en collège, vous en doutez, c'est de faire en sorte qu'ils aillent au lycée, qu'ils se projettent en tout cas dans le lycée, et bien après de leur proposer un accompagnement en seconde, première et terminale.
Combien d'établissements aujourd'hui, et d'élèves peut-être, sont concernés chaque année par le dispositif ?
Alors aujourd'hui, ça constitue 33 établissements.
Dans toute la région Occitanie désormais.
Oui, même si la couverture...
n'est pas encore complète peut-être.
Oui, dans l'Académie de Montpellier, elle débute, mais c'est vrai que malgré tout, on a 3 lycées dans l'Académie de Montpellier. 33 établissements, c'est-à-dire en fait à peu près 9 collèges, 22
lycées
généraux et technologiques et 2 lycées professionnels.
Et ça ferait combien d'élèves à peu près tout ça ?
Ah ben là, par année, actuellement, on est à peu près entre 750 et 800 élèves.
Et ça va grandissant, je suppose. Déjà par le fait que la région s'est étendue, puisque maintenant c'est...
Oui, et puis parce qu'on n'a pas débuté aussi avec, avec 33 établissements.
Oui,
et puis il y a la question de la montée en puissance aussi.
Parce qu'il faut accompagner.
Oui, il faut accompagner, comme vous dites.
Est-ce qu'on sait combien il y en a dans la métropole toulousaine qui sont concernés et où ils sont situés ?
Dans la métropole toulousaine, il y a... un certain nombre de collèges. Il s'agit là plutôt des collèges, enfin de collèges REP ou REP+.
Alors, précisez ce que c'est REP, parce que tout le monde ne le sait pas forcément.
Les réseaux d'éducation prioritaire, hein, d'accord. On a deux lycées, enfin actuellement deux lycées, on en avait trois, mais on a deux lycées à Toulouse qui font partie aussi de ce programme-là.
Comment se déploie maintenant le dispositif en lui-même ? Sur quels axes principaux et quels moyens s'appuie-t-il ?
Pour essayer d'être très synthétique, donner un peu une idée générale du programme, il y a trois axes d'intervention en fait. Il y a un premier axe en fait qu'on pourrait appeler méthodologique, hein, qui se traduit par un travail en atelier au sein des établissements, tutoré par des étudiants de Sciences Po Toulouse. Donc évidemment, là, ici l'objectif de toute façon c'est de travailler la question de l'écriture, de la préparation aussi de la prise de parole. Donc il y a tout ce premier aspect-là, qui évidemment n'est pas le même en fonction du niveau de classe. Hein. Il y a un aspect orientation et insertion, si je puis dire, dans le monde universitaire, hein, qui se traduit bien sûr au cours des ateliers, mais au moins par deux journées qui sont organisées. Alors l'une pour les premières qui s'appelle Disposition, que nous effectuons avec notre partenaire du Théâtre Garonne, et donc qui est une sorte de speed dating, de présentation de soi, pour aller vite avec des professionnels, hein, donc c'est-à-dire face à des professionnels, proposés aux élèves.
Les élèves doivent se présenter devant eux, c'est une prise de parole en public, alors, devant un jury, c'est pas un jury mais c'est comme une sorte de jeu de rôle, donc c'est vraiment ça.
Oui, alors, voilà, on met des tables sur la scène du théâtre, hein, donc c'est très rigolo, quoi. Puis les élèves, effectivement, avec leurs étudiants tuteurs, face à un professionnel, présentent leur projet, présentent aussi ce qu'ils sont. On est en première, donc on est bien ici dans la construction aussi d'une... une participation à l'expression à la fois de désir, mais aussi peut-être déjà d'une orientation. Et ça marche très très bien. Hein. Ça fait autant plaisir et ça apprend autant, à mon avis, aux professionnels qui nous font vraiment l'honneur de venir et de prendre du temps pour ces élèves que pour les élèves. Et l'autre aspect, c'est une journée qui a lieu en terminale, ça s'appelle projection. Et vraiment, l'idée, c'est en petit atelier montrer aux élèves avec l'intégralité des partenaires, d'ailleurs la métropole est présente aussi à ce titre-là, comment on doit construire sa vie étudiante. Il y a énormément de choses qui existent, mais qui ne sont pas connues. Et surtout, pour des élèves qui sont dans des familles où l'argent ne court pas les rues, eh bien, l'idée, c'est vraiment de leur montrer qu'on peut construire un budget. D'ailleurs, c'est le but du jeu. Ils construisent un budget avec leur tuteur. À quoi j'ai droit au niveau de la CAF, au niveau du CROUS, au niveau de la mobilité, etc., etc., pour qu'ils prennent conscience. C'est peut-être pas facile, mais en tout cas, c'est pas non plus impossible. Et que les arguments, parce que c'est ce dont on s'est aperçu, hein, si on a créé, vous savez, on a une démarche très évolutive de notre programme, et on s'est aperçu que des élèves qui avaient suivi le programme, qui s'étaient projetés dans des études supérieures, eh bien, au bout du compte, quand on regardait ce qu'ils avaient fait, eh bien, ils étaient allés, par exemple, ou ils étaient restés dans leur lycée parce qu'il y avait un BTS. Alors, c'est pas qu'un BTS, c'est pas bien. Mais ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire. Et évidemment, les arguments qui sont tenus, mais oui, mais bon, il faut que je parte, et puis mes parents n'ont pas beaucoup d'argent, et puis je suis le premier de la fratrie, et puis. Hein, c'est-à-dire une espèce de retour de ce qu'on essaie justement de transformer un peu, hein, c'est-à-dire de tous les freins que l'on peut se donner pour ne pas se projeter et pour ne pas oser. Quoi,
pour ne pas oser, c'est un peu ce que j'allais dire. Les acteurs du dispositif, qui sont-ils ? Les intervenants ? Vous avez parlé d'étudiants de Sciences Po Toulouse qui, eux, un travail de tutorat, donc ça veut dire qu'ils se déplacent dans les établissements aussi loin soit-il. Mais il y a, je suppose, aussi des professeurs des établissements concernés, et puis peut-être, vous les avez cités, des acteurs culturels, associatifs, des élus éventuellement.
Alors des élus, on a eu des élus effectivement qui ont participé notamment à cette journée de présentation de soi, et qui effectivement, souvent on a des élus qui jouent le jeu, ça c'est très bien. Alors après, excusez-moi de revenir un peu en arrière, mais le troisième axe en fait, vous avez raison de le dire, hein, c'est tout un programme d'ouverture culturelle. Et là pour le coup, on a lié des partenariats importants et solides avec la plupart des institutions culturelles de la région, quoi, très clairement. et qui permettent alors non seulement bien sûr de découvrir des spectacles, etc., mais aussi d'avoir des expériences, c'est-à-dire c'est pas simplement une billetterie.
On essaie, pas seulement aller au spectacle,
ouais, mais
même si l'accès évidemment à la culture est
mais
important,
bien sûr,
mais surtout lorsqu'on est dans des territoires où on n'a pas forcément cet accès facilement.
Mais c'est rencontrer les acteurs justement des institutions culturelles, les comédiens, les réalisateurs, enfin, etc. Bon. Et puis c'est aussi partager des choses, c'est-à-dire on est très attaché à ça, c'est-à-dire que pour acquérir aussi un certain nombre de codes sociaux, il y a deux manières, c'est-à-dire soit vous êtes dans une perspective de coaching, ce qui peut avoir des effets évidemment intéressants, soit en fait vous mettez les élèves en situation d'expérimenter dans leur corps justement ces situations. Et ils le font très bien. Donc l'expérimentation, l'incorporation aussi des codes sociaux, ça passe par ce qu'on fait. Et donc l'association, on a des partenariats avec, par exemple avec Circa, eh bien forcément, à ce moment-là, eh bien, ils vont aussi faire du cirque,
oui,
si je puis dire.
Circa à Auch, dans le Gers. Ouais. Comment vous mesurez les résultats ou comment vous évaluez? Il y a des points de passage, une espèce de, je ne sais pas, contrôle continu, c'est peut-être pas le terme. En fin d'année, vous faites le bilan, je suppose, des actions qui ont été menées, des résultats que ça peut avoir.
Oui, alors. Ça me ramène en fait à la question que vous avez posée auparavant. Vous avez raison, on travaille avec l'établissement. La particularité peut-être de ce programme, c'est que dès le départ, nous l'avons co-construit avec les directions d'établissement et les enseignants. Donc ça, c'est extrêmement important parce que...
Ils sont très impliqués dans le dispositif.
Et la définition, enfin ce que j'ai évoqué, c'est pas Sciences Po qui est arrivé, coucou, on va faire ça. Je dirais que c'est vraiment le résultat au cours du temps de cette co-construction. Et donc, vous parlez d'évaluation, oui. C'est-à-dire, en fait, il y a des comités de pilotage pédagogique, et donc il y a des moments où on essaie effectivement de réfléchir, de voir ce qui ne va pas bien, ce qui peut s'améliorer, ce qui est bien, bon, on le garde. Ça commence à être un peu précalé quand même au bout de 12 ans, mais enfin, il y a toujours des choses à améliorer. Donc il y a cette forme d'évaluation. Oui, là aussi, on est dans l'innovation sociale, quelque part. Dès le départ aussi, on a mis en place en fait une... on s'est donné les moyens d'avoir une évaluation quantitative.
Et individuelle, je suppose.
Et individuelle, oui, tout à fait. Et donc, bon, ben, on peut donner des résultats, oui.
Alors justement, j'en venais à ça, je voudrais qu'on termine là-dessus. Quels sont les résultats du programme DISPO depuis 2006? Qu'est-ce que vous avez pu constater? Quel parcours ont fait les élèves qui en ont bénéficié? Est-ce qu'il y a des exemples très emblématiques de réussite depuis?
Alors oui, je vous donne quelques chiffres.
Oui.
Là, on peut mesurer en tout cas un certain nombre d'effets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le dispositif. C'est toujours très délicat de...
C'est voilà. Une des pierres à l'édifice, évidemment.
Mais en tout cas, par rapport aux élèves qui intègrent le dispositif, eh bien, on a un taux d'admission au bac qui est beaucoup plus élevé que l'académie. Ce qui est remarquable, si vous voulez, c'est plutôt au niveau des mentions oui. Bien et très bien. Les chiffres sont de 2017, mais au niveau académique, ça représente à peu près les mentions bien et très bien, 19 à une vingtaine de pourcents, et dans le cas du programme, plus de 26%.
Oui, donc c'est nettement au-dessus de la moyenne régionale.
Et ça, c'est très important parce que c'est un des objectifs vraiment du programme, c'est d'avoir, pour les lycéens, d'avoir le bac dans les meilleures conditions possibles, parce qu'on sait très bien aussi que ça conditionne l'accès à un certain nombre de filières.
Oui. Voilà. Et les grandes écoles notamment.
Les grandes écoles notamment, et de fait, avec Parcoursup, je pense que c'est aussi quelque chose qui va devenir plus généralisé. Et un autre indicateur, c'est... qui est quand même assez intéressant par rapport au public concerné, c'est une augmentation, enfin une moyenne plus importante aussi que l'académie, au niveau de l'intégration dans les CPGE, dans les classes préparatoires. Et on sait aussi que plus de 80% des élèves s'orientent vers des études supérieures longues, alors qu'on est dans une académie où justement c'est...
C'est pas la tendance.
C'est pas la tendance, on est plutôt autour de 65% si je me trompe pas, vous voyez, donc il y a un effet, bon, ça on peut le mesurer. Après il y a des effets effectivement, oui, enfin, on a des exemples de réussite, parce qu'on a beaucoup de mal en revanche, on sait ce qu'ils font après le bac, mais c'est vrai qu'actuellement on a beaucoup de mal à avoir une vision systématique de ce qu'ils deviennent.
Ouais, donc on a un suivi vraiment précis leur devenir après.
Là, pour le moment, on n'a pas les moyens, mais peut-être que ça va changer. Mais pour le moment, on n'a pas en tout cas les moyens de savoir ce qu'ils sont devenus. Donc c'est évidemment très parcellaire. Mais... Alors déjà, il y a un certain nombre d'élèves qui intègrent malgré tout Sciences Po, même si ce n'est pas l'objectif. Là, c'est plus facile de savoir ce qu'ils sont devenus.
Oui,
si
évidemment.
Voilà. Donc y en a qui réussissent très très bien. Mais bon, il y a aussi... des parcours d'élèves, moi je trouve assez intéressant. Vous allez me dire, c'est là aussi il y a une question à se poser, mais pas mal de filles aussi qui ont choisi le métier de professeur des écoles ou de professeur.
C'est sans doute pas un hasard.
Ouais, je pense que c'est sans doute pas un hasard, effectivement. Puis bon, alors on a eu des... ça c'est quand même important de le dire, mais on a des parcours comme ça aussi assez rigolos d'élèves. Enfin, je pense à une jeune femme qui voulait entrer à Sciences Po, qui ne l'a pas eu, donc... mais qui a fait droit, qui a fait des études en droit brillantes, et puis qui s'est retrouvé, ça aussi c'est intéressant au niveau de la mobilité ou de la possibilité de la mobilité, qui effectue un master à Sciences Po Rennes maintenant. Encore une fois, c'est compliqué, on peut donner des exemples, bien entendu, mais c'est plus, je dirais, plus que le résultat, c'est-à-dire en termes de poste, ou c'est ce que ça produit éventuellement chez les élèves. Et si je peux me permettre, il n'y a pas que ça dans l'évaluation et dans les effets. C'est qu'on s'aperçoit, en fait, au cours du temps, que le fait qu'il y ait ce type de programme dans un établissement, ça a aussi des effets, non seulement sur les professeurs, sur les dynamiques d'établissement, sur les manières aussi de faire avec les élèves, hein, c'est-à-dire ça a aussi des effets pédagogiques. Donc, et c'est pas, même évidemment si c'est pas l'objectif premier, hein, bien entendu, mais c'est quand même aussi, je pense que c'est important de le noter.
Oui, je pense que d'avoir bénéficié de ce dispositif ou d'y avoir participé sensibilise forcément à cette notion d'égalité des chances. Et puis ceux qui en ont bénéficié après dans leur vie professionnelle ou leur vie d'homme ou de femme tout simplement auront envie de rendre ce qu'on leur a donné. On arrive au terme de cette émission. Merci infiniment Olivier Philippe d'avoir accepté notre invitation à participer à Métropolez-vous pour présenter le programme Dispo que porte Sciences Po Toulouse dans la métropole et dans notre région depuis 2006. Voilà un numéro qui aura permis, je l'espère en tout cas, de vous donner un aperçu concret des actions qui sont menées pour permettre l'égalité des chances dans le domaine scolaire. Tout ne se joue pas là, bien entendu, vous l'aurez compris. Il y a aussi ce qui se passe en dehors du milieu scolaire. Et évidemment, c'est au moins tout aussi important. Néanmoins, l'égalité devant la qualité de l'enseignement et l'accès au savoir, c'est la moindre des choses. Il faut que tous les élèves de notre pays et de notre région puissent en bénéficier. Le programme Dispo agit en ce sens et je vous invite bien sûr à consulter le site web de Sciences Po Toulouse pour en savoir plus et en connaître tous les détails. Il suffit pour ça de vous connecter à www.sciencespo-toulouse.fr puis de taper Dispo dans la barre de recherche. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri à la technique Francky Guéret. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous. Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.